Bonjour. Lundi 8 février. Bienheureuse Jacqueline de Septisolles. Elle était disciple de saint François d'Assise et mourut en 1274. L'amie de saint François s'appelle Jacomina de Settesoli. Elle était veuve de Gratien Frangipani, d'où le nom de la délicieuse frangipane qu'elle confectionnait pour saint François quand il venait la voir à Rome. François la fit appeler quand il sut que sa fin approchait, et elle est enterrée non loin de lui dans la basilique d'Assise. Nous fêtons une très bonne fête à toutes les personnes se prénommant Jacqueline. Mardi 9 février. Sainte Apolline ou Apollonie. Elle était martyre à Alexandrie et mourut en 249. Donc, vierge et martyre à Alexandrie en Égypte, elle le fut lors d'un moment où l'empereur Dèce, sans organiser une véritable persécution, laissait les païens donner la chasse aux chrétiens et les tuer comme ils voulaient sans qu'ils soient punis pour ces meurtres. Saint Denis d'Alexandrie, dans une lettre à son ami Fabien, évêque d'Antioche, raconte comment elle fut prise par les païens au cours d'une émeute. Elle n'était plus jeune. Et c'est pourquoi ils s'amusèrent à l'édenter. Ils lui brisèrent une à une toutes les dents, puis la menacèrent de la jeter vivante dans le bûcher qu'ils venaient d'allumer si elle ne reniait pas sa foi. Brûlée par le feu de l'amour du Christ, elle s'excusa auprès d'eux de ne pouvoir le renier, puis elle s'élança d'elle-même dans les flammes. Elle est représentée sur un timbre autrichien, émis le 11 octobre 1982 pour le 70e congrès mondial des dentistes. Sur ce timbre, on la voit tenant une dent extraite et lisant un livre. Près de Fribourg, en Suisse, il existe une chapelle mentionnée pour la première fois en 1147 et dédiée à Sainte Apolline. Cette petite chapelle se trouve à côté d'un pont datant du XVIe siècle, le pont Sainte-Apolline, sur le territoire de la commune de Villars-sur-Glâne. Ce magnifique témoin de l'architecture vernaculaire est composé essentiellement de tuf. Il se situait sur un important axe de circulation au Moyen Âge, note l'archéologue Jean-Pierre de Warat. Aujourd'hui, ce pont est interdit de circulation, mais il est emprunté par des centaines de pèlerins de Compostelle. Il est d'ailleurs très peu courant de trouver une petite chapelle à côté d'un pont. De nombreuses dents cariées ont été trouvées dans le périmètre, prouvant que Sainte Apolline, vierge et martyre du IIIe siècle, était très aimée. Donc, il existe au témoignage de l'évêque Saint-Denis, la dernière année de l'empereur Philippe en 249, dans une émeute, le fait que les païens se saisirent d'elle, lui firent tomber toutes les dents en lui frappant les mâchoires, puis menacèrent de la jeter vivante dans un bûcher si elle ne prononçait pas avec eux des formules impies. Elle délibéra donc un moment en elle-même, puis, offrant sa vie en sacrifice, elle s'élança dans le feu, plus prompte à affronter la mort que ses persécuteurs à préparer le supplice. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Apolline. Mercredi 10 février, Saint Arnaud. Il fut abbé de Sainte-Justine de Padoue et mourut en 1255. Au temps où Padoue était aux mains d'Ezzelino, un tyran féroce et prompt au meurtre, Arnaud Cattaneo, abbé du monastère de Sainte-Justine, dut se réfugier dans une grotte voisine pour échapper à une mort certaine. Quand l'empereur Frédéric II vint délivrer la ville, Arnaud l'accueillit très joyeusement. Mais quand Ezzelino reprit le contrôle de la région, le bienheureux Arnaud fut arrêté, jeté dans un infect cachot, où il mourut après 8 années de souffrance et d'isolement. Très bonne fête à toutes les personnes se prénommant Arnaud. Jeudi 11 février. Le 11 février, nous fêtons les Héloïse avec un H, Héloïse sans H, Adolphe, en l'honneur de bienheureuse Héloïse, ermite bénédictine, morte vers 1066. On fête également, en ce jour du 11 février, Notre-Dame de Lourdes, et c'est aussi la journée mondiale des malades. Revenons à bienheureuse Héloïse, qui fut ermite et bénédictine vers 1066 et qui mourut vers 1066. Alors Héloïse ou Héloïsa ou Elvise. Elle fut recluse française sous l'obédience de l'abbaye bénédictine de Coulon en Normandie. D'ailleurs, dans l'église Saint-Chéron de Coulon, dans la paroisse Sainte-Jeanne en vallée de l'Eure, il existe un vitrail à droite, qui représente Sainte Elvise avec ses offrandes et sa cellule le long du mur de l'abbaye en arrière-plan, ainsi qu'un reliquaire en forme de buste qui contient ses reliques. Mais bien entendu, c'est également la fête de Notre-Dame de Lourdes. Effectivement, la Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous entre le 11 février et le 16 juillet 1858 à la grotte de Massabielle près de Lourdes. Elle demande à Bernadette de devenir sa messagère et de travailler à sa manière à la conversion des pécheurs. Elle lui demande d'établir un lieu de prière et de pèlerinage. Elle lui confirme le dogme proclamé 3 ans plus tôt par le pape Pie IX. Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette sera une humble servante qui s'efface quand l'Église accepte le message de la Vierge Marie. Jusqu'à 2019, début 2020, plusieurs millions de visiteurs, de pèlerins et de malades viennent et venaient chaque année du monde entier prier Notre-Dame de Lourdes afin d'obtenir la grâce de la conversion et le soulagement de leurs épreuves. Effectivement, depuis mars 2020, beaucoup moins de pèlerins ont accès à Lourdes à cause de la pandémie du coronavirus. Donc du 11 février au 16 juillet 1858, par 18 fois, la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous. L'évêque de Tarbes et Lourdes permit le culte de Notre-Dame en ces lieux et une chapelle y fut construite. Donc bien sûr, depuis lors, des foules innombrables sont venues du monde entier. Et la mémoire de ces apparitions a été inscrite au calendrier romain en 1907. Il est normal que Marie, mère et modèle de l'Église, soit invoquée et vénérée comme Salus Infirmorum, première et parfaite disciple de son Fils, elle a toujours fait preuve, en accompagnant le cheminement de l'Église, d'une sollicitude particulière pour qui souffre. En célébrant les apparitions de Lourdes, lieu choisi par Marie pour manifester sa solitude maternelle envers les malades, la liturgie repropose justement le Magnificat, qui n'est pas le cantique de ceux à qui sourit la fortune. Mais il est le merci de ceux qui connaissent les drames de la vie et mettent leur confiance dans l'œuvre rédemptrice de Dieu. Comme Marie, l'Église porte en elle les drames humains et la consolation divine au long de l'histoire. Acceptée et offerte, partagée sincèrement et gratuitement, la souffrance devient un miracle de l'amour, disait Benoît XVI le 11 février 2010. Donc en 1858, 3 ans après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, une toute jeune fille, Sainte Bernadette Soubirous, contempla à plusieurs reprises la Vierge Marie dans la grotte de Massabielle, au bord du Gave, près de Lourdes, qui est devenue dès lors un lieu vénéré par des foules innombrables de fidèles. Dieu notre Père, parmi toutes tes créatures, tu as fait éclore Marie, la créature parfaite, l'Immaculée Conception. Ici, à Lourdes, elle a prononcé ce nom et Bernadette l'a répété. L'Immaculée Conception, c'est un cri d'espérance. Le mal, le péché et la mort ne sont plus les vainqueurs. C'était la prière du jubilé 2008. Nous souhaitons donc une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Héloïse, Héloïsie, Héloïs, Soter, Théodora. Vendredi 12 février. Bienheureuse Ombeline, qui fut moniale cistercienne, sœur de Saint Bernard, et qui mourut vers 1141. Ombeline ou Ombeline avec un H. Alors que son père et ses 6 frères se sont consacrés à Dieu, à l'abbaye de Citeaux en Bourgogne, Ombeline épouse un seigneur et mène une vie particulièrement dissipée et mondaine. Saint Bernard provoque en elle le choc décisif qui entraîne sa conversion en refusant de la recevoir un jour où elle vient lui rendre visite au monastère en grand équipage. Après ces quelques années de vie frivole, elle suit donc l'exemple de ses frères et embrasse la vie monastique. Moniale, cistercienne à Julie-les-Nomains, en Bourgogne, Ambeline meurt dans la paix de Dieu. Donc Ambeline avec un H ou Ambeline sans H, sœur de Saint Bernard, naquit en 1092 à Fontaine-lès-Dijon. Mariée au frère de la duchesse de Lorraine et jouissant d'une grande fortune, elle menait grande vie. Son frère, Saint Bernard, lui en fit le reproche et elle changea de conduite. Elle entra, avec l'accord de son mari, chez les bénédictines de Julie, près de Ravière. Elle devint prieure et ce monastère, qui fit trop vite petit pour accueillir les nouvelles sœurs, aussi fonda-t-elle un nouveau monastère à Crisenon, dans la paroisse de Prégilbert. Elle mourut en 1141 et fut enterrée à Julie. L'ordre de Cîteaux la mentionne en son calendrier le 12 février. Donc au monastère de Julie, dans le diocèse de Troyes, vers 1136, la bienheureuse Ambeline, prieure de ce couvent que son frère Saint Bernard, abbé de Clairvaux, avait heureusement détourné des plaisirs du monde, s'est donnée avec le consentement de son époux à la vie monastique. Nous souhaitons une très bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment donc Ambeline, Humbeline, Ombre d'âne, Umbria, Umbrina, Félix, Alirion, Mélès, Mélissander, Rioc, Rogatien, Saturnin, mais aussi Victoire. Samedi 13 février. Bienheureuse Béatrice d'Ornacieux, qui fut la fondatrice du monastère d'Émeux dans la Drôme. Elle mourut en 1303. Donc Béatrix ou Béatrice naquit au village d'Ornacieux en Isère dans le Dauphiné. Elle entra à la Chartreuse de Parménie puis fonda la Chartreuse d'Émeux dans la Drôme, d'où elle gagna le ciel le 25 novembre 1303. Béatifiée en 1869, elle est aussi fêtée le 13 février. Née au château d'Ornacieux, près de la côte Saint-André, vers 1260, Béatrix entre à l'âge de 13 ans à la Chartreuse de Parménie, non loin de Tulins. En 1300, elle fonde le monastère d'Émeux, où elle connaît le plus extrême dénuement. Elle y mourut un 25 novembre, sans doute en 1303, et une chapelle y perpétue son souvenir. La vie de Béatrix a été écrite par une moniale chartreuse contemporaine de la bienheureuse Marguerite Douin et elle atteste son ardent amour pour Jésus crucifié. Dans le Valentinois, entre 1303 et 1309, la bienheureuse Béatrice d'Ornacieux, vierge, fut saisie d'un grand amour de la croix, vécu et mouru dans la plus grande pauvreté dans la Chartreuse d'Émeux qu'elle avait fait construire. Nous fêtons donc une très bonne fête à toutes les personnes se prénommant Béatrice. Ce jour-là, il y a également Saint Gilbert, évêque de Meaux, qui mourut vers 1009. Originaire du Vermandois, il fut d'abord chanoine à Saint-Quentin, puis évêque de Meaux. Nous connaissons très peu de choses de ses actes épiscopaux, mais nous le voyons souscrire à une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Denis. Il signe des donations à plusieurs autres abbayes en Île-de-France et dans le pays chartrain. Saint-Gilbert, évêque de Meaux, est né à Ham le 30 septembre 950. Chanoine de Saint-Quentin, puis archiprêtre de Meaux, il fut nommé évêque de Meaux en 995. Il mourut dans cette ville le 13 février 1009 et fut enseveli dans sa cathédrale. Selon Don Toussaint du Plessis, dans l'histoire de l'église de Meaux en 1731, et Monseigneur Alloux dans la chronique des évêques de Meaux en 1875, Gilbert a été donc nommé en 895 à la mort d'Archenrad, qu'il avait nommé archidiacre de son église. Il apposa son sceau sur une charte en faveur de l'abbaye Saint-Denis en 998, puis en 1009, sur donc une charte du roi Robert en faveur de l'abbaye Saint-Pierre de Melun en 1005 et partagea les biens de l'église de Meaux entre l'évêque et son chapitre, accédant ainsi à la demande des chanoines. Gravement malade, il fit venir à lui ses amis Léotéric, archevêque de Sens, et Fulberg, archevêque de Chartres. Selon Don Toussaint du Plessis, il mourut le 13 février 1015, 1009 ou 1010, selon les bollandistes ou le propre du diocèse de Meaux. Plusieurs miracles s'opérèrent à son tombeau. Il fut inhumé devant le maître-autel de sa cathédrale. Mais ses reliques furent pillées par les Huguenots en 1562. Saint-Gilbert donna l'exemple d'une parfaite humilité. Nous souhaitons également une très bonne fête à toutes les personnes se prénommant Gilbert. Dimanche 14 février, Saint-Valentin, qui fut martyr et évêque de Terni, est mort vers 269. Il était, dit-on, évêque de Terni en Italie et jouissait du renom de thaumaturge. Un miracle le fit connaître comme chrétien et le préfet de Rome fit mettre à mort celui qui avait mis ses pouvoirs de prêtre et ses talents de médecin au service des chrétiens prisonniers pour leur foi. Le 15 février, les Romains célébraient avec faste le dieu Faunus Lupercus, dans une grande fête païenne dédiée à l'amour et à la fécondité. Pour contrer cette célébration, parfois débauchée, le pape Gélase Ier, en 495, décida de marquer plus solennellement Saint-Valentin, mais sans autre raison. Aussi, fut supprimée progressivement la date païenne de cette fête. Mais il y a une confusion entre différentes légendes du Moyen-Âge et Saint-Valentin l'a fait devenir patron des amoureux. Valentin de Terni était donc un jeune prêtre thaumaturge d'environ 18 ans dont le corps fut découvert dans les catacombes Saint-Hippolyte en 1831, sous le pape Grégoire XVI, avec l'inscription « Valentinus in pace ». L'empereur Claude voulait interdire le mariage afin que plus d'hommes soient envoyés à la guerre. Informé que Valentin mariait les chrétiens, Le préfet Placide ordonne son arrestation, le fait flageller et décapiter sur la Via Flaminia à Rome. Saint Valentin est reconnu comme étant le patron des amoureux, de la jeunesse et des épileptiques, mais aussi des voyageurs et des apiculteurs. Les reliques de Saint Valentin sont hébergés depuis plus d'un siècle en l'église Saint-Rémy de Montigny sur Sambre. Nous souhaitons donc une très bonne fête à tous les personnes se prénommant Valentin. Il existe un dicton pour ce jour de la Saint-Valentin qui est le suivant. S'il ne fait froid le jour d'Adam et Ève, 20 jours trop tôt, montera la sève. À la semaine prochaine.